rendez-vous de votre émission préférée sur Canal FM. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer à travers Club de la Presse. Thomas était Kossi Datevi à la technique assure la mise en onde. À côté de lui, Jiro Akuka qui se charge de la mise en ligne sur les différentes plateformes numériques de Canal FM, notamment Facebook, YouTube, canalfm.com et l'application mobile. Globe de la Presse est également suivi sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Atakpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. Ibn Radio et Radio Les Bénins reprennent aussi cette émission en ligne. Autour de la table ce mardi, Eric Johnson du journal L'Union. Bonjour Eric.
Bonjour mon frère, comment tu vas?
Je vais très bien.
Moi aussi je vais bien, merci. Et bonjour les autres confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Isidore Akolor du journal Actu Express. Bonjour Isidore.
Bonjour chers confrères, bonjour à toutes et à tous.
Et puis celui qu'on n'a pas accueilli dans ce studio il y a un bon moment, Adam Adjrenou du journal Vision d'Afrique. Bonjour Adam.
Bonjour Fousseni. Merci de m'avoir invité. Un bonjour spécial aux auditeurs et auditrices de Canal FM. C'est vrai qu'il y a un moment, dû à ce que vous saviez, mais nous sommes de retour en forme. Nous rendons grâce à Dieu.
Merci. Bienvenue parmi nous. Moi-même, je me nomme Fousseni Saïbou. Voici le débat. Nous ouvrons cet autre numéro par notre page culturelle. Deux articles nous intéressent dans le journal L'Union. D'abord sur l'œuvre littéraire « Les armes du passé » de Tawé. Eric Johnson, qui en est l'auteur et de quoi parle l'œuvre?
Alors, l'auteur, c'est une jeune dame qui est née en 2002. Vous imaginez?
C'est très récent.
Ouais, son âge. Et donc, c'est une jeune dame qui a fait ses études au lycée Chamina de Kara. Et après, il s'est inscrit à la faculté de médecine. Vous voyez aujourd'hui que de plus en plus, les scientifiques togolais prennent la plume. Et ils écrivent beaucoup, à l'instar du professeur Mijiawa, qui ne cesse de remplir sa page de blog pratiquement tous les jours. Je lis cela
avec des jolis poèmes.
Ah oui, des jolis poèmes à la fin, et des articles surtout qui ont trait à la médecine. Et donc la jeune Tawé, de son vrai nom Assoram Elfrid Tomsuwa. Et donc, elle a 22 ans, elle est étudiante en médecine, et c'est son premier roman qu'elle vient de publier aux éditions L'Oracle. Et cette œuvre parle un peu de la vie, c'est un livre transgénérationnel, puisque ça ne parle pas qu'aux jeunes. Mais ça parle à presque toutes les générations.
D'accord.
Cette jeune, il y a une citation que j'ai lue à la date de ce roman qui parle un peu de ce que la jeune s'est un peu transportée dans l'au-delà pour quand même exposer tout son talent. En réalité, ce roman parle d'une jeune fille de 8 ans qui a été violée par par son oncle hein.
C'est l'inceste.
Oui, qui a été violée par son oncle, et donc vous imaginez tout le drame que ça a pu créer au sein de la famille. Donc, la jeune Tawé nous amène sur ce terrain pour parler de la vie, de ses péripéties et de tout ce que cette jeune fille a eu à subir par après ce moment de viol-là. Et donc, c'est un roman qui nous interpelle tous, qui parle des problèmes de la société, qui évoque hein, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, c'est une recommandation spéciale. Sans vous mentir, je n'ai pas encore lu
le roman en question,
mais déjà avec le résumé que j'ai eu, je pense que cela doit nous interpeller en tant que parents, et surtout quand nous parlons de la protection des jeunes filles.
D'accord. Et le second article annonce un événement culturel, sortie de résidence, théâtre Akpadé, ce 12 octobre sur la scène de l'IFT.
Oui, comme souvent désormais, après des résidences culturelles, les acteurs, sinon les artistes, essaient de produire quand même des scènes ou de créer de l'art que nous pourrons aujourd'hui toucher, regarder, voir, apprécier. Et donc ça a été le cas après une résidence culturelle, deux artistes togolais, et il s'agit de Etché Atrimi et Sabine Kouli. Etché qui est en quelque sorte un danseur, celui-là qui sait vraiment danser, qui enseigne la danse, et Sabine qui est une chanteuse polyglotte. Elle chante, elle a une voix, et donc les deux se sont rencontrés au cours de cette résidence culturelle là et ont créé cette scène qui s'appelle Akpadé. Et je crois que c'est en langue Ifé qui veut dire la rencontre.
D'accord.
La rencontre, tout simplement. Et donc, ils vont mettre leur talent en symbiose sur la scène de l'Institut français du Togo ce 12 octobre. Et donc, c'est une œuvre qui est véritablement sortie d'une rencontre de résidence culturelle.
D'accord, une rencontre organique entre la danse, le chant et la musique.
La musique.
Isidore Lacouleur, réaction ?
Non, quoi dire ? Que dire ? En fait, il faut seulement encourager les gens qui s'essaient encore en culture. Et la culture, j'avoue que ça ne paye pas, ça ne nourrit pas son homme. Et c'est un sacerdoce. S'il y a des gens qui sont motivés pour le faire, on ne peut que leur tirer chapeau bas.
D'accord. Adam Adjorounou ?
Non, vous savez, c'est vrai que on a l'habitude de le dire qu'aujourd'hui, vous savez, depuis des lustres, la connaissance est toujours cachée dans les livres, mais de plus en plus de jeunes, sinon l'humanité plus dans sa globalité, est de moins en moins en train donc à ces lectures-là. Mais étant donné aujourd'hui que chacun a la possibilité de pouvoir lire les livres, que ce soit sous sa forme dématérialisée, que sous sa forme physique, je pense que c'est toujours de mise de toujours faire un effort de lire ces ouvrages-là, puisque des Togolais et non-Togolais font de plus en plus d'efforts, écrivent des livres, mais de moins en moins des lecteurs s'orientent vers ces lectures-là. Donc c'est le moment de pouvoir inciter chacun d'entre nous de faire un effort, que la connaissance est toujours cachée dans ces livres-là, pour promouvoir cette lecture et encourager naturellement ceux qui font les efforts en ce sens-là à pouvoir continuer.
Surtout dématérialiser, comme vous l'avez dit, les livres.
Parce que il y en a.
Les jeunes sont plus accros aux réseaux sociaux.
Aux réseaux sociaux, voilà, mais beaucoup également font l'effort de pouvoir mettre à leur disposition ces versions dématérialisées-là, qui pourraient donc trouver certains même sont en quelque sorte même gratuits. Mais on constate que ce soit sous sa forme dématérialisée ou sa forme physique, de toute la façon, tout revient au même. Il est difficile de pouvoir donc s'orienter à la lecture aujourd'hui. Mais c'est également ce qui explique. Parce que lorsque les voix s'élèvent pour dire que le niveau, surtout lorsque nous prenons la question de l'enseignement, devient de moins en moins excellent, cela également est dû à cela. Mais je crois que aujourd'hui, lorsque vous prenez avec les réformes entreprises au niveau de l'enseignement, vous constaterez qu'aussi bien des romans qui soient togolais, mais également le ministère également de la culture, qui avait entre-temps un projet allant dans ce sens-là, je pense que ce sont des trucs à encourager et faire en sorte que ces livres-là soient lus et encourager donc ces écrivains.
D'accord. Nous quittons le secteur culturel pour parler un peu de la santé. Une affaire de vente illicite de médicaments au CHU Kara défraie la chronique depuis la semaine passée. Suite aux sanctions, suite plutôt aux accusations de vente et d'administration de produits anti-venimeux douteux à un jeune homme victime de morsures de serpent, le ministère en charge de la santé a mené des investigations qui ont confirmé ses allégations. Des sanctions sont aussitôt tombées. Le directeur du CHU Kara a résilié les contrats de 3 agents contractuels. Quant aux agents fonctionnaires coupables, ils sont suspendus par les ministres de la Santé et de la Fonction publique. Alors, Eric Johnson, sanctions méritées ou exagérées?
Vous savez, nous appelons aujourd'hui à des sanctions, quelle que soit la faute commise par rapport à la portée de la faute, il faut que des sanctions tombent. Ce n'est pas seulement sur les agents que les sanctions doivent tomber, parce que ce n'est pas une pratique qui date d'aujourd'hui. Nous le savions depuis, et des voix s'élevaient depuis pour dénoncer cet état de cause. Mais malheureusement pour ces agents-là, c'est eux qui ont été sous le feu de la rampe, et donc c'est eux qui tombent aujourd'hui sous le coup des sanctions. Maintenant, par rapport à ces sanctions-là, est-ce qu'il faut parler d'exagération ou d'insuffisance de sanctions? Je crois que le tout dépend de là où l'on se trouve. Si vous êtes victime de ce qui s'est passé, vous allez trouver cela normal, puisque ce sont des Togolais qui ont été victimes de maladresses de ces agents de l'État, puisque en réalité, vous êtes payé par rapport au travail que vous accomplissez. Mais là, lorsque vous profitez d'une situation pour anarquer les citoyens, mais tout de suite, vous êtes sous le coup de la loi. Mais de l'autre côté, si nous sommes peut-être des proches ou des collègues de ces agents-là, nous pourrons peut-être dire que c'est exagéré parce que les sanctions quand même suivent des étapes. On peut parler d'avertissement, on peut parler de sommation, on peut parler après, on peut aller à l'extrême, l'exclusion totale. Mais là, je crois que s'il y a eu sanction, c'est une bonne chose. Mais maintenant, juger de la portée de ces sanctions-là, ça dépend de l'ordre.
D'accord. Le CHU Kara n'est certainement pas la seule formation sanitaire publique où ce genre de pratique est constatée. Ça fait d'ailleurs un bon moment que cette situation est dénoncée, comme l'a dit Eric. Alors, Isidore Akolor, que faut-il concrètement faire pour freiner drastiquement ce phénomène dans les centres de formation publique?
Non, il revient aux responsables de pouvoir faire le ménage. C'est pourquoi moi je dis, le directeur aussi est complice. Le directeur aussi doit être sanctionné. Il ne suffit pas seulement de sanctionner les agents. Mais ça fait plusieurs années et il faut monter la garde quand vous avez un malade hospitalisé. Il faut monter la garde pour que les produits pharmaceutiques ne disparaissent pas. Et ce n'est pas normal. On a eu à dénoncer cette chose. Saint-Fort s'est impliqué. Mais rien n'y fit. Ça continue de plus belle. Moi, la question que je me pose, comment se fait-il que... Où est-ce que ces gens ont trouvé ces produits entre guillemets frelaté, parce que c'est parce que il n'y a pas de les principes actifs. le médicament n'a pas pu guérir ou soigner la maladie, qu'on en parle aujourd'hui. Maintenant, au lieu de les sanctionner, il faut aller au-delà. Leur demander où est-ce qu'ils ont trouvé ces produits. Si c'est à la pharmacie ou dans une officine ou dans un dépôt pharmaceutique qu'on a acheté le médicament, il faut aller plus loin et interpeller le pharmacien en question. Ou c'est, si c'était un réseau parallèle, mais moi je suis resté sur ma soif. Il faut aller plus loin pour démanteler le réseau qui met à disposition des produits pharmaceutiques qui ne sont que de nom. Voilà un peu ma réflexion. Je ne sais pas si ça pouvait servir à quelque chose, mais il ne faudrait pas s'arrêter seulement aux sanctions des agents et autres. Il faut aller plus loin, connaître la source d'approvisionnement de ces produits pharmaceutiques.
D'accord.
Pour éradiquer le mal à la racine.
D'accord. Adama Dronou.
Vous savez, moi je pense que les sanctions dans la gestion d'une administration font partie intégrante aussi bien du règlement intérieur qui régit en réalité dans le fonctionnement de cette structure-là. Mais est-ce que faudrons-nous attendre jusqu'à arriver au scandale avant de prendre dans ce genre de réaction? Je n'en sais rien, mais tout compte à croire que, de toute évidence, lorsqu'on y arrive à cet extrême-là, les têtes ont toujours l'habitude de tomber. Mais la grande question, c'est de savoir quelle est la rigueur imprimée dans la gestion donc, de cette structure-là. Cela voudrait dire, avant qu'on en arrive à ce scandale-là, c'est qu'il y a eu d'autres scandales, mais certainement qui n'ont pas eu les mêmes échos que ceux-là. Voilà pourquoi on a laissé passer. Donc, je pense que cela doit ressusciter également cette vigilance-là et cette rigueur dans la gestion, surtout lorsque nous prenons les structures sanitaires. C'est vrai que récemment, on a commencé par constater qu'il y a une rigueur imprimée au niveau du ministère, ce qui était attendu depuis longtemps. Mais au même moment, normalement, lorsque vous tenez donc à ces rigueurs-là, il y a des gens qui ont eu l'habitude de pouvoir donc baigner toujours dans cette manière de faire, si bien qu'on ne le voit pas de bon oeil. On a parlé donc de la contractualisation, etc., qui viendra modifier. En tout cas, bon nombre de choses, ça fait son petit chemin. Mais au même moment, est-ce que l'efficacité escomptée est au rendez-vous? Ce n'est pas évident. Puis s'il y a des voix qui se lèvent contre l'inefficacité de cette contractualisation et tout le boucan qui l'est entouré à l'entame donc, de son lancement. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait également imprimer les mêmes rigueurs pour éviter qu'on ait encore des scandales de plus. Sans quoi, au niveau de nos risques sanitaires, c'est vrai qu'il y en a, qu'il y a parmi ces praticiens hospitaliers qui ont conscience véritablement d'un certain nombre de lassitudes. Et on a vu le syndicat, entre-temps, qui avait lui-même commencé par s'auto-conseiller. Il y a eu donc des activités qui sont faites à l'encontre donc, des praticiens hospitaliers pour éviter aussi bien les mauvais accueils et les pratiques qui sont déviantes dans la gestion ou dans la pratique de leur métier. C'est l'histoire de pouvoir donc rappeler à cette règle de gouvernement, mais également liée donc à cette procédure de rigueur dans la gestion de la chose publique et où l'intérêt général doit être mis en avance. À partir du moment aujourd'hui, on dit un praticien hospitalier ne doit pas vendre des produits. Je pense que cela ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi donc aller vers là? Mais au même moment aujourd'hui, je pense que si on essaie aujourd'hui de comparer le fait qu'on dit, voilà, en Afrique, on peut faire tout, mais je pense qu'aujourd'hui, la technologie a beaucoup avancé. Il faudrait inclure cette technologie dans la gestion également de la chose publique. Cela éviterait qu'on puisse donc arriver à ces scandales-là qui ne sont que des scandales de trop.
D'accord. Signalons que suite à cet événement au CHU CARA, un collectif de 7 syndicats de la santé, dont le Saint-Fox, a, au cours d'une conférence de presse, condamné cet acte et invité le personnel soignant au respect rigoureux de l'éthique et de la déontologie. Bon, c'est vrai que les autorités sanitaires ont essayé de limiter les arnaques dans certains hôpitaux publics par la contractualisation, vous l'avez dit Adam. Le CHU de CARA figure parmi ces hôpitaux, mais le phénomène résiste encore, persiste. Voilà. Alors, Eric Johnson, il est peut-être temps de prendre en compte la proposition du collectif des syndicats qui a encore appelé hier à l'évaluation externe de la démarche de contractualisation en cours dans certains hôpitaux.
Oui, je pense que cette situation de nos hôpitaux, en réalité, elle est due à une mauvaise gestion d'abord des structures sanitaires et ensuite au comportement délictueux des agents de santé. Il ne faut pas l'occulter. Je pense que tout le monde est coupable quant à ce qui concerne le fonctionnement de nos structures sanitaires aujourd'hui. Vous savez, dans le temps, lorsque vous allez au CHU, que tout le monde connaissait, le CHU Sylvanus Olympio, CHU Tocoin dans le temps, mais les soins sont administrés de façon exceptionnelle. Mmh. C'est-à-dire que vous arrivez, on vous prend en charge et on vous soigne comme il faut. Mais à partir des années 90, tout a basculé. Et vous voyez des patients qui arrivent parfois même totalement en agonie, mais qu'on ne regarde même pas, soit 10 ans qui n'ont pas payé les frais de prise en charge, etc. D'abord, quelle est cette conscience professionnelle que l'on a et qu'on peut utiliser en laissant des patients sur le carreau. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui se permettaient même de prendre les produits qui sont destinés aux patients pour aller vendre à l'extérieur des structures sanitaires. Si l'on est arrivé aujourd'hui à la contractualisation, c'est parce qu'il y a autant de problèmes sur dans nos structures sanitaires. Je parlais tantôt de la mauvaise gestion. Il n'y a pas assez de rigueur dans nos structures. Les premières autorités de ces structures-là, on dirait que c'est pas des hommes qu'on doit soigner dans ces structures-là, parce que vous voyez l'état de délabrement avancé des différentes sections, mais vous vous demandez si réellement vous êtes dans un hôpital. Et donc aujourd'hui, l'autorité a été obligée de prendre ces mesures-là, mais ça ne peut pas être efficace tout de suite. C'est avec le temps, parce que là, il y a un premier rapport qui a été publié, je crois, vers la fin de l'année dernière, mais ce rapport dit qu'il y a quand même des avancées par rapport à la situation de nos structures sanitaires. Mais si les syndicats aujourd'hui demandent qu'il y ait un audit de tout ça, ça veut dire que ces syndicats-là, puisque c'est des agents qui travaillent dans ces structures-là, ils voient autre chose, ils regardent autre chose, ils subissent autre chose, mais dans le public, on dit autre chose. Et donc, je crois que l'autorité doit finalement écouter aussi ces agents-là, ces syndicats-là, pour aller dans leur sens, pour que tout le monde, quand même, situe les responsabilités dans la gestion de nos structures sanitaires.
Je suis de ceux qui ont toujours dit que cette contractualisation des hôpitaux était une arnaque. Mais le temps me donne raison. Le CHU Cara fait partie de ces structures qui ont bénéficié de cette contractualisation. La contractualisation telle qu'on nous l'a vendue, c'était pour corriger les dysfonctionnements. Comment se fait-il que à peine terminé, ou ça se poursuit encore. Je ne sais pas si la contestation continue là-bas.
Ça continue.
Mais en pleine application ou mise en œuvre de cette contractualisation, on remarque des dérapages. Des dérapages.
Donc, des agents.
Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit que le directeur aussi doit être sanctionné d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est sa structure.
Et s'il n'est pas directement lié à cette affaire.
Pourquoi ne pas être directement lié? Alors là, il n'est pas responsable de la structure. S'il y a supposé qu'on vient de découvrir de la drogue dans ce studio, ben, qui est le premier à interpeller? C'est votre directeur. C'est ça.
C'est encore autre chose.
Non, c'est pas autre chose. Si on vend des médicaments frelatés dans une structure.
Ils ne sont même pas frelatés. Bon. C'est que c'est interdit.
Non, écoutez.
C'est interdit de vendre.
De vendre, mais c'est une vente parallèle. Aujourd'hui, cette vente parallèle ne fera pas objet de débat si le produit était efficace.
Oui.
C'est tout le problème. Nous oublions ce côté. Si le produit était efficace, mais le patient n'allait pas se plaindre.
Mais tout le monde n'est pas censé vendre le produit.
Oui, ça c'est tout à fait d'accord. Ça c'est la déontologie. Maintenant, le produit qu'on vend,
pire encore, c'est frelaté.
C'est frelaté. C'est ça même le grand danger. Mais ne perdons pas de vue ce pourquoi je dis que le directeur aussi doit être interpellé. On ne doit pas s'arrêter aux sanctions des agents vers eux, mais démanteler le réseau qui fournit ces produits frelatés. Mais un produit, d'abord, on sait que les médicaments sont avant tout des poisons et qu'on utilise pour nous guérir. Mais si le poison ne peut pas guérir, alors là, ça va te tuer.
D'accord. Adama Durounou,
oui. Vous savez, je pense que la contractualisation, d'un point de vue a montré ses limites. A montré ses limites dans la mesure où, lorsque vous prenez aujourd'hui le CHU suivant Nice Olympio, il y a des services où pratiquement est affecté. Vous allez aux urgences aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu partenariat en tout cas, qui est mise en jeu pour donc la gestion de ce service-là. Et lorsque vous y allez, même s'il y a encore des écueils à pouvoir en relever, vous constaterez véritablement qu'il y a eu un travail qui se fait d'un point de vue structurel, d'un point de vue également du professionnalisme. Et donc je pense que c'est à justice si aujourd'hui les voix se lèvent contre la contractualisation qui a montré naturellement ses limites, c'est justement parce que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. On a vite fait de pouvoir donc présenter des rapports sur le fait qu'il y a eu des avancées, mais à partir du moment où les patients ne trouvent pas donc satisfaction en ce qui concerne l'ère de contractualisation, ça voudrait dire quelque part que c'est inefficace. Donc j'estime que cela interpelle même le ministre à pouvoir revoir en réalité cette gestion-là et continuer toujours par interpeller la conscience de ces praticiens hospitaliers. Puisque ce qui est important, c'est justement de prendre en compte l'intérêt général. À partir du moment où vous avez la possibilité de pouvoir donc démissionner, d'aller créer un institut parallèle, et si vous voulez véritablement donc faire dans les affaires, vous ne pouvez pas devoir exercer dans les structures sanitaires publiques en ce sens-là, puisque c'est ouvert donc à tout le monde, et aux personnes à revenus modestes. Donc il n'y a pas lieu de le faire. Donc moi, je pense que le règlement intérieur n'est pas appliqué à la hauteur des souhaits, c'est ce qui conduit à cela. Donc ça vous a dit quelque part que ces ventes-là, Isidore l'a dit tantôt, c'est parce que nous sommes en face d'un produit qui n'est pas totalement adapté, qui a eu ce scandale-là et que cette question-là est révélée. Ça vous a dit que dans d'autres structures, les ventes parallèles continuent. Pourquoi ça continue? Quand bien même qu'il y a eu contractualisation, il y a problème. Voilà pourquoi moi je me dis, au-delà du fait que la contractualisation n'a pas permis de résoudre des problèmes liés aussi bien à la gestion dans des structures hospitalières, il faudrait quand même faire réinventer d'autres structures. Par exemple, nous avons aujourd'hui les matériels assez informatiques qui permettent de pouvoir donc surveiller des sites. Il faudrait quand même aller. C'est vrai que ça coûte cher, mais on aura une efficacité et on aura à préserver des vies.
D'accord. Merci à vous tous. Nous quittons ce sujet. Crépuscule de la démocratie électorale en Afrique, lit-on à la une du journal Actu Express dans les kiosques ce mardi. Isidore Akolor, dites-nous davantage, bien sûr sans vider le contenu de l'article.
Oui, évidemment, il s'agit d'une analyse que nous ajoutons à la réflexion et à la réflexion des types de gestion de nos sociétés. Et on nous a souvent vanté la démocratie, je ne suis pas contre la démocratie, comme étant le système de gouvernance le moins mauvais. Et c'est, on dit le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple, qui est consacré par le mode d'évolution du pouvoir et par des élections. Mais force est de constater que 30 ans d'exercice, c'est ce que nous, moi je qualifie ou nous qualifions de démocratie électorale, montre ses limites, en ce sens que aujourd'hui les citoyens, les populations ne se retrouvent plus dans le choix de leurs dirigeants. Et les dirigeants sont mal élus, mais ils bombent les torses en disant que bon, j'ai été démocratiquement élu. Alors là, il faut se poser cette question. Est-ce que cette façon de faire en organisant des élections frauduleuses, contestées, où à chaque fois il y a des dérapages, il faut qu'on réfléchisse. Voilà la quintessence de cette analyse pour qu'on puisse revoir le mode de gestion, de gouvernance. Il ne faut pas calquer seulement et ce qui vient de l'extérieur. Et cet article est peut-être lié, c'est pas si on va en revenir, sur la charte du mandat dont j'ai fait la publication intégrale aujourd'hui. Et si je pouvais enchaîner ou bien...
Oui, allez-y.
Oui. Et dans les années, vous comprenez, en 1222 déjà, on parle d'une charte des mandats de l'Empire du Mali. Ou à l'époque de Soundiata Keita. Mais quand vous parcourez cette charte qui comporte 7 articles, ça regroupe tout sur la démocratie, l'état de droit, le respect des humains, la liberté d'expression, la liberté, toutes ces choses-là.
Donc si je comprends bien, la démocratie n'est pas venue de l'Occident.
Pas du tout. Et quand vous revoyez ça, vous voyez, c'est pourquoi nous avons dit que la charte du mandat est les prémices de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que ce n'est qu'en 1948 que les Nations Unies ont adopté les 30 articles qui constituent le socle aujourd'hui de la compétence et des droits fondamentaux. Mais quand vous voyez toutes ces choses-là, les valeurs véhiculées par et la charte du mandat se retrouve intégralement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on avait un modèle de gouvernance qui marchait. Donc, voilà un peu les réflexions auxquelles j'invite
les lecteurs
pour qu'on puisse revoir. Voilà. À défaut, bon, le crépuscule de la démocratie électorale finira par prendre le devant et personne. Vous avez vu même partout ailleurs, j'ai pris l'exemple sur, et qu'on appelle-t-on, ce qui s'est passé au Gabon, où on a arrêté la proclamation des résultats. Le résultat a été proclamé, mais on a fait le coup d'État au président parce que, bon, il va dire qu'il a été démocratiquement élu, alors c'est que les élections étaient truquées et la vérité des unes n'ont pas été proclamées. Pas plus tard que la semaine dernière, en RDC, l'ancien président de la commission électorale indépendante a dit qu'il y avait eu des bisbires entre Tshisekedi, l'actuel président, et son prédécesseur Kabila Joseph. Et le président dit que non, rien n'y fit. Bon, voilà, ça pose fondamentalement le crédit qu'on va encore accorder aux élections dans nos pays africains, surtout d'expression francophone.
D'accord. Eric Donson, beaucoup le disent, la démocratie occidentale n'est pas compatible avec les réalités africaines. Est-ce qu'il faut repenser ou réadapter la démocratie à notre contexte, le contexte africain?
Mais ce que Isidore est en train de dire, c'est connu de tous aujourd'hui. Mmh. Tout le monde est en train de mener la même réflexion par rapport à toutes les situations que nous vivons aujourd'hui. Des coups d'État par-ci, des conflits entre citoyens d'un même pays, je veux dire des conflits à la suite des élections, surtout où il y a des tueries, il y a des morts, etc., des pertes en vies humaines en général. Et donc, ce que Isidore est en train de dire, c'est une réflexion que nous devons véritablement nous asseoir et pousser pour voir quelle est la bonne formule pour que la démocratie que nous voulons tous, parce que en réalité, nous tous, nous voulons avoir la liberté d'expression, la liberté d'action. Hein, nous voulons sortir de chez nous, vaquer à nos occupations, y rentrer sans aucun souci. Nous voulons avoir le minimum vital. Nous voulons instruire nos enfants. Nous voulons nous soigner quand nous sommes malades, etc. C'est le minimum. Hein? C'est tout ce que nous recherchons en tant que citoyens. Mais à cause de la démocratie, depuis les années
90.
Je me rappelle déjà en 86 où le président français Jacques Chirac disait à Abidjan « Ce que nous avons mis 100 ans à construire, vous ne pouvez pas le faire en quelques jours, en quelques années. » Mais là, on l'a taxé d'oiseaux de mauvaise augure, de soutien aux dictateurs, hein, c'est-à-dire les chefs d'État qui étaient en poste dans le temps où il n'y avait pas de limitation
des mandats.
Et voilà, c'est pour cette raison que les populations n'ont pas tout de suite compris le sens de ce qu'ils voulaient dire, mais l'ont taxé de soutien aux dictatures. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte de certaines réalités par rapport à l'application de tout ce qui nous vient de l'extérieur. On nous impose, regardez, prenez nos constitutions. À 90%, on peut dire que tout nous vient de l'extérieur. Tous les articles. Et aujourd'hui, vous allez au niveau de la justice. Comment applique-t-on la loi chez nous? Il y a des décisions de justice que les gens même refusent aujourd'hui d'appliquer parce que, en réalité, on ne comprend pas le sens de ces décisions-là. On dit toujours, quand la décision est contre nous, que le juge a mal dit le droit ou carrément qu'il n'a même pas dit le droit. Et donc vous voyez autant de situations qui nous poussent aujourd'hui à dire qu'il faut qu'on se retrouve et qu'on discute de notre démocratie, l'adapter à notre à nos conditions, parce que vous savez, nous avons aussi notre manière de voir les choses. Nous avons notre manière de vivre ensemble. Hein? Et il y a des choses. Regardez comment nos sociétés ont été construites. On a un chef qui est là. Un chef coutumier qui est là. Et ce n'est qu'après sa mort qu'il est remplacé. Mais est-ce que en ce moment-là, les gens se tapaient dans la rue? Est-ce que les gens se tiraient dessus? Est-ce que... Non. Il faut aussi voir tout ça pour dire que nous devons faire une analyse plus approfondie de la situation et trouver quand même le bon milieu.
D'accord. Adama Adjounou, certains pays ont fait le choix de revoir, de réadapter leur constitution à la situation de leur pays. Je prends l'exemple de la Centrafrique. Bon, on dit le Centrafrique aujourd'hui. Oui. Il y a également le Mali. Est-ce que tous les autres pays doivent tendre vers ces réformes?
Mais ces réformes, il faut le dire, contrairement à ce que vous dites, je pense d'une manière ou d'une autre, est toujours focalisée aux desiderata donc du colon. Il n'y a pas en réalité une réalité liée à notre propre gouvernement, parce que lorsque vous remontez un peu l'histoire, prenez par exemple le Sénégal. Avant 1900, le Sénégal connaissait déjà ce qu'on appelle une forme de démocratisation liée par exemple à une succession en termes de gouvernance avant même l'arrivée donc, du colon au Sénégal. Je pense que le Togo également, lorsque vous remontez bien l'histoire, on avait aussi nos réalités qui n'étaient pas fondamentalement les réalités donc occidentales. Mais la grande question, c'est de savoir ce que l'Africain avait de choix. On n'avait pas de choix, puisque vous savez, les conventions et les traités ont été donc signés sans les Africains et donc sans tenir compte de nos réalités, et donc nous a été imposé à contre-courant de nos civilisations. Et donc, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Mais je pense qu'avec ces soulèvements dont vous venez de faire, car ce concernant donc certains pays, c'est un pas de gagné. Mais au même moment, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui pouvoir donc imposer, lié donc à cette civilisation qui a pris du temps, et qu'il faudrait recommencer de nouveau? Ce serait véritablement difficile. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait tout simplement réadapter ce qu'il faut réadapter à notre vie actuelle. Sinon, on ne pourra plus refaire encore l'histoire. Je pense également que, de toutes les façons, si même les réadapter, il faudrait également les réadapter par rapport au contexte géopolitique international qui s'exprime naturellement. Et lorsque vous prenez, les gens ont l'habitude de citer les pays de l'Asie, et naturellement c'était la Russie qui aujourd'hui est acclamée comme étant un pays où c'est le développement de ces pays-là est parti du fait qu'il y a eu leur réalité qui a été donc prise en compte aussi bien dans les législations qui n'ont pas été imposées. Même nous savons que après des années, il y a des pays qui ont été donc colonisés, mais qui sont revenus à la case de départ en tenant compte de leur réalité, ce qui n'avait pas été le cas. Donc, je suis d'accord avec Isidore qui repose aujourd'hui le débat, qui peut donc interpeller. Et je pense que la plupart de nos pays, c'est vrai, il y en a qui ne le font pas tambour trompette, mais ils essaient véritablement de réadapter un certain nombre de tests liés donc à la législation actuelle en tenant compte des réalités de nos pays. Et je pense que c'est la vitalité que nous recherchons tous. Puisque aujourd'hui, on l'a compris que on ne peut pas d'un coup de tête pouvoir donc escamorter pour arriver à faire à s'adapter. Les civilisations occidentales sont des civilisations qui ont duré dans le temps. Nous avons les nôtres. Il faudrait tout simplement pouvoir donc recalibrer les choses, tenir compte de nos réalités et pour que nous avançons.
D'accord.
Je voudrais dire un truc rapidement. Quand tu parlais tout à l'heure du Mali, quelle a été la réadaptation qui a été faite par rapport à la constitution?
Il n'y en a pas.
Mais vous avez lu un peu la nouvelle constitution du Mali?
Il n'y en a pas encore.
Il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Il n'y a rien, je peux...
Rien.
Rien du tout. Rien du tout n'a changé dans la Constitution. On parle de réadaptation.
Mais il y a la question de langue qu'ils ont pris en compte.
Oui. C'est une question culturelle, c'est vrai, mais...
Est-ce que la manière de pratiquer la démocratie va différer de ce qui se faisait avant le coup d'État?
Rien.
C'est de ça il s'agit. Sauf que il a juste dit quelque part que quelqu'un prend les armes aujourd'hui pour faire un coup d'État, ça devient un crime.
Il est passé par là.
Alors que lui-même il est passé par là. Non, il y a rien qui a changé. Très franchement.
D'accord. Merci.
Non, en fait, ce que moi, ce à quoi je voulais attirer l'attention de nos confrères et de l'opinion, c'est qu'on a pris seulement une partie des vertus de la démocratie. C'est tout un ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont au pouvoir s'arrangent à caporaliser l'organe en charge des élections et ils organisent des élections frauduleuses. C'est pourquoi nous parlons de démocratie électorale. Donc, il suffit d'être élu au suffrage universel, s'imposer au peuple. Donc, la souveraineté même est confisquée. Voilà les réflexions que nous devons mener pour que tout le monde se retrouve, se reconnaît au choix des dirigeants. Sans cela, nous faisons des marches à reculons.
D'accord. Oui, nous sortons de ce sujet. Alors, le journal L'Union s'est intéressé ce mardi à la situation des sociétés d'État à travers ce titre. Situation financière des sociétés d'État, les chiffres de la bonne santé dans 16 sur 17 sociétés du portefeuille jusqu'en 2026. Alors, Eric Johnson, à travers ce titre, on comprend que la société d'État se porte plutôt bien.
Oui, la société d'État se porte bien. Et il ne faut pas oublier qu'on a parlé de 16, hein, de ces sociétés-là sur
17.
Les 17 que comporte logiquement le portefeuille de l'État. Donc, oui, il y a un document qui s'appelle le DPBEP, document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, qui prend en compte trois années hein, de vie économique de notre pays. Et donc, dans ce document hein, qui concerne la période 2024 à 2025, à 2026, pardon, on a eu à relever quand même que les sociétés d'État, il faut bien comprendre, quand on parle de sociétés d'État,
d'accord,
c'est des sociétés où l'État est l'unique actionnaire, 100%, ou des sociétés qu'on appelle des sociétés d'économie mixte, où l'État
a une partie, peut-être 50%.
50%, et il y a d'autres actionnaires. Mais maintenant, il y a aussi des sociétés où l'État est actionnaire minoritaire. Et donc, voilà, aujourd'hui, quand on prend l'ensemble de ces sociétés, l'État reçoit de ces sociétés-là chaque année des dividendes. Et c'est par rapport à la croissance de ces dividendes-là qu'on parle de la bonne santé de ces sociétés. Et il y a eu une période hein, où le document l'a révélé, avant un peu, avant la période de Covid, où ces sociétés-là étaient véritablement en méforme financière, où elles n'arrivaient même plus à générer des dividendes pour les actionnaires. Et donc, depuis un certain moment, ça va en crescendo. Et donc, l'État arrive à percevoir hein, des dividendes à travers ces sociétés.
D'accord.
Oui, en fait, Isidore. Oui, ça me fait marrer. Ça me fait marrer ce genre de comment dirais-je, d'études. Je ne sais pas si qui a évalué ces sociétés d'État pour qu'on en arrive là. Si l'indicateur fondamental serait les dividendes versés à l'État, qui va décréter la santé économique d'une société d'État, je me dis que là, on a tout faux. Parce que la plupart du temps, ces sociétés d'État sont dans une situation de monopoleurs. Ils n'ont pas de concurrents. Elles, plutôt, n'ont pas de concurrents. Prenons l'exemple de la SNPT. C'est une société d'État. Quelle est sa part de contribution dans le budget national aujourd'hui? Et oui, posons-nous la question par rapport au Maroc, où le Maroc arrive. Vous savez que après le Maroc, en qualité de phosphate, le Togo vient sur le plan mondial. Mais qui sont ceux qui commercialisent aujourd'hui le phosphate togolais? C'est les Gupta. C'est les Gupta. Et on a le courage de dire les choses.
Vous aurez la parole. Bien. Continuez.
Aujourd'hui, le Maroc
arrive à développer beaucoup de choses, à transformer le phosphate en engrais et que le Maroc vend à l'international. Que faisons-nous? Que faisons-nous pour nous dire que ben, ces sociétés d'État sont en bonne santé parce que elles versent des dividendes à l'État? Mon œil.
D'accord. Oh là là. Oui, Adam Adirono. Oh là là.
Oui, bon, peut-être je crois que c'est sur cet aspect-là que l'évaluation a été donc faite. Mais il y a une question essentielle et existante qui souvent nous ignorons. C'est justement lorsque nous parlons de concurrence, il est révélé par la plupart des sociétés, qu'elles soient dans des sociétés d'État ou non étatiques, qu'en réalité, le protectionnisme que nous constatons dans d'autres pays ont pour la plupart du temps fait du bien donc, à ces pays-là. Parce que je pense que ce n'est pas véritablement un tort si vous protégez le marché pour donc renforcer ou rendre beaucoup plus vital ces sociétés-là, surtout quand elles sont des sociétés qui peuvent avoir des concurrents. Il y en a plein qui sont cités, qui estiment que le fait que le Togo a libéralisé son marché ne leur rend pas service au même moment qu'ils ont des difficultés dans d'autres pays, même si, entre-temps, le Togo est totalement respectueux des normes de l'UMOA ou de la CDAO. Mais certains sont véritables. Nous gagnons des points. Mais au même moment, nous gagnons des points. Est-ce que cela profite, a des répercussions sur l'économie ou la rentabilité de ces sociétés? C'est pas évident. Puisque quelque part, on est bon élève, premier au niveau de l'UMOA. Mais lorsque vous prenez ces portefeuilles, la rentabilité de ces sociétés-là, pris à l'échelle internationale, vous verrez que ces sociétés, prenez le Bénin très fort en ce qui concerne la protection de son marché. Par exemple, la farine de blé togolais a véritablement des difficultés à pénétrer le marché béninois ou burkinabé, par exemple. Or, nous, c'est quand même libre, tout le monde vient, et eux, ils ont vraiment des difficultés. Or, nous gagnons des points. Mais entre les points, gagner les points et gagner les finances, en tout cas, chacun a sa petite réponse.
Alors, je voudrais dire à Isidore que sa réflexion sur la concurrence ne tient pas. Parce que dans les sociétés d'État aujourd'hui, on parlait de 17, dans ces sociétés-là, il y a au moins 3 hôtels. Hôtel Sarakawa, Hôtel Le Roc et Hôtel Kara, qui sont également des sociétés d'État.
D'accord.
Il y a également les banques. L'Union togolaise de banque, même si c'est la seule qui reste aujourd'hui, qui n'est pas encore privatisée.
On dit qu'elle est comatose.
Et donc, il y a des concurrents partout. Il y a, par exemple, le laboratoire national des BTP, qui a également...
LNBTP.
Oui, LNBTP, qui a également des concurrents sur le marché. Le problème ne se trouve pas à ce niveau.
D'accord.
Puisque le document dit aujourd'hui que l'État est en train de constater que ces sociétés-là pouvaient mieux faire. Et donc, il y a même un audit qui est demandé à travers ce document-là par rapport à toutes ces sociétés.
Audit interne ou audit externe?
Je voudrais ajouter, il y a toujours un audit interne qui se fait dans presque toutes les sociétés. Maintenant, quand on dit qu'il va y avoir un audit général, ça doit être un audit externe. Je voudrais dire, au total, l'État a 53, est dans 53 sociétés dans le pays. Les 17 dont je parlais aujourd'hui, elles sont 18 parce que les 18 n'étaient pas prises en compte dans ce document parce qu'il y a le Togo Invest qu'on a rajouté. Et donc, sur les 53, il y a 17, aujourd'hui 18, dont l'État est actionnaire à 100%.
D'accord.
Il y a 30 dont l'État est actionnaire minoritaire et 6 dont l'État est actionnaire...
Quelle est la part de la SNPP?
Alors, quand nous prenons le budget de l'État, chaque année, il y a une quote-part pour chaque société d'État dans le budget national. Et donc, si nous cherchons à savoir la part de la SNPT dans le budget national, il suffit de prendre le document de budget.
Mais non, est-ce que la SNPT fait partie des 16?
Oui,
bien sûr.
Et il nous renvoie à des généralités. Écoutez, dans les années 70-80, la contribution de l'OTP avoisinait les 40% du budget national.
Office togolais des phosphates.
Oui, oui, oui.
Mais la matière première, a pris un coup. Hein.
Écoutez, et comment s'en sortent les Marocains? Non. Il faut raisonner alors que nous avons des avantages comparatifs.
Oui.
Et on arrive. Ce que je voulais dire, ces sociétés-là, l'indicateur ne devait pas être seulement le fait de verser des dividendes à l'État pour qu'on nous dise que cette société d'État se porte mieux.
D'accord.
Oui, c'est l'État qui fait son évaluation. Mmh. Lorsque cette société-là n'apporte rien à l'État, ça veut dire qu'elle ne se porte pas bien. C'est juste enfin, une logique dans cette situation de cette société.
D'accord. Adam?
Non, je pense qu'on peut... maintenant passé, hein, de toutes les façons, c'est un débat qui est loin d'être clos ici. Mais l'évidence, c'est que de toutes les façons, il y a des critères d'évaluation qui peuvent plaire ou ne pas plaire. Mais je pense qu'au regard de leur rentabilité au niveau du budget national, c'est ce qui peut expliquer la vitalité donc, de ces sociétés-là. Mmh. De toutes les façons, lorsque une société d'État n'est pas rentable en ce qui concerne la contribution, c'est vrai que également au niveau de l'effectif des emplois, etc., sont des étapes qui peuvent rentrer dans l'évaluation et estimer dans l'efficacité de ces sociétés-là.
Voilà. D'accord. Merci à vous tous. Nous marquons une pause et on revient.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous ouvrons maintenant la ligne aux auditeurs 22 21 33 74 20 22 20 19 68 98 87 78 37. Allô? Allô?
Bonjour, papa.
Oui, bonjour.
Chapeau à monsieur Mizora Colombier.
D'accord, merci beaucoup. C'est monsieur?
C'est monsieur JB.
Monsieur JB, on vous écoute.
Seulement, je voudrais savoir la citerne dont il parlait là, qui a fondé ça. Je ne parle pas des autres frères, nos papas qui ont fondé ça là-bas, dans l'état des colons. Ils sont ceux qui ont fabriqué ça là-bas. Nous aussi, nous sommes venus voir ça. Nos frères qui sont nés, disons, qui sont là de 76 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils n'ont rien fait avec ça. Même, comment ça s'appelle, Dakar là-bas, les gâteaux, comment ça s'appelle, les frères sont là-bas. Allez voir nos frères qui sont là, qui sont nos frères maintenant. Il faut essayer de revenir à nos moutons. Revenons en bas. Laissez les colons qui sont là-bas, revenons en bas pour fonder le pays. Le Togo, ça nous appartient aussi.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Allô? Allô? Pas encore d'auditeur. 22, 21, 33, 75. 20, 22, 20, 19, 68, 98, 87, 37. Allô?
Oui, monsieur, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Sylvain.
Monsieur Filmer, on vous écoute. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Diminuez le volume de votre poste récepteur.
C'est ce que je suis en train de faire.
D'accord, ok, on vous écoute maintenant.
Oui, franchement, je ne sais pas s'il faut poser la question pour demander si c'est une sanction juste. Ça, on ne peut pas aller chercher loin. C'est une sanction très juste. Quand Saint-Médicien s'amuse avec la vie est sacrée. Si on me disait, on ne doit pas jeter le bébé avec de l'eau de bain, ce bébé-là, il faut le jeter avec l'eau de bain et passer à autre chose. Ces messieurs, il faut les sanctionner pour que ça serve de leçon aux autres. C'est une sanction très juste même. On allait même très loin leur trouver autre service. À part, ils ne sont pas appelés. Bah, c'est ce que je pense, mais c'est mon point de vue quand même.
D'accord. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô?
Oui,
bonjour.
Comment vous allez?
C'est monsieur?
Monsieur Sanga.
D'accord, on vous écoute.
Oui, mais j'ai dit que la crise est arrivée de Paris. Bon, c'est vrai, plutôt sanctionner.
Vraiment, la ligne n'est pas très bonne.
Allô?
La ligne n'est pas très bonne.
Bon, je dis, il faut sanctionner.
Oui.
Pour que ça fasse des missions en contre. Bon, mais il y a quelqu'un qui disait que le directeur de moi, je dis, non, c'est un peu exagérant. C'est un directeur où il a son personnel. Il ne peut pas tout gérer, aller diriger les choses. Vous voyez, non? C'est pas la grâce de Dieu. C'est vrai, il y a un investigateur, c'est ça, vous dites. On a interpellé et je suis en même temps d'appeler le président et directeur public. Le directeur, il n'a pas croisé les bras. Bien sûr, il a agi. Donc, vous voyez, non? Donc, porter sur le directeur, c'est pas fait. Mais tous les autres, là, franchement, on prend la question limitée seulement à Kara. Si on va voir le nez ici, tout dans le secteur, c'est très important. Parce que le chef, vous disait que si il a dit ça, les gens ne veulent pas se parler dans le statut quand même de l'État. Vous voyez, quand un pays est malade, il a tout fait dans le truc. Je vous remercie beaucoup.
D'accord, merci à vous. Allô? 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 22 21 33 74 22 20 19 68 98 87 78 37. Allô? Allô? Pas encore d'auditeur. Je rappelle encore une fois les numéros 22 21 33 74 22 20 19 68 98 87 78 37. Allô? Pas encore d'auditeur. Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, madame, comment allez-vous? On vous écoute.
Il n'y a personne, on est là. On va essayer. Je ne sais pas si vous avez parlé du Moyen-Orient.
Non.
D'Israël et Palestine.
Non, on n'a pas évoqué. On n'a pas évoqué.
Vous ne l'avez pas évoqué aujourd'hui.
Mais vous pouvez aller quand même.
C'est comme ça la vie. Dieu, quoi. Israël, moi, je vais sauter du coq en l'âne quand même. Israël qui écrase la Palestine depuis la nuit des temps, là. Vous avez vu? Eux aussi se sont préparés. Dieu les a aidés à leur masséner un bon coup pour dire qu'on est tous des frères, qu'il ne faut pas régner l'un sur l'autre. Comme ça se passe en Afrique et au Togo. Voilà. Moi, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais bon, je vais revenir.
D'accord. Merci. D'accord, merci. À tout à l'heure. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Mon directeur, bonjour.
Bonjour, papa Sibiti. Comment allez-vous?
Mon directeur, Sylvestre Béni.
Non, Sylvestre n'est pas venu. Il vient demain. Il vient plutôt demain.
Que Dieu vous bénisse.
Merci.
Vous savez, les sanctions, excusez-moi, doivent être exemplaires. Nous copions les Blancs. Vous savez, le vrai crime que les gens posent, c'est quand quelqu'un viole un enfant de 3 ans, 8 ans, on ne lui fait rien que c'est la prison. L'Ardio Lomé venait d'en parler. Si nos pays-là, nos États devaient revenir à la pendaison, ne pas copier les Blancs, parce que si tu sais que quand tu commets un crime, tu auras des sanctions, on va te tuer. Les enfants seront à l'aise. Il faut que nos dirigeants revoient les sanctions à prendre. Merci beaucoup.
D'accord, merci, papa Sibiti. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur Gadou.
Monsieur Gadou, on vous écoute. On vous écoute. Monsieur Gadou, vous êtes en ligne.
Ah, d'accord, merci. Je ne parle pas de radio, c'est pourquoi.
D'accord, allez-y.
Bon, moi, je voulais parler d'Israël, la guerre entre Palestine et Israël. Vous savez, les Israéliens, moi, je ne sais pas. Au lieu de résoudre le problème du terrain et l'affaire est close, ils ne jouent pas. Mais les États-Unis aident les Israéliens à tuer les Palestiniens. Regardez, si c'est que les Palestiniens ont aussi des avions, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, les gens sont partis attraper les Israéliens, les prisonniers. Donc, Israël, c'est un immeuble fragile. Non, franchement, pendant ça, les États-Unis, Israël n'existe pas. Israël, ce n'est pas Israël d'avant. C'est des fanatiques. Non. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour le terrain. Et puis, Palestine va avoir un pays palestinien. Puis, c'est fini. Merci, bonne journée.
D'accord, merci beaucoup. Allô? Allô? Pas d'auditeur. 22 21 33 74 22 20 19 68 98 87 78 37. Allô? Alors, s'il n'y a pas d'auditeur, nous allons clore. Donc, alors, on me signale qu'il y a un auditeur en ligne. Allô?
Alors, il y a un auditeur, excusez-moi. Les Blancs, vous voyez, on tue les gens. Ils se taisent, même les États-Unis. C'est quel droit, ça? C'est... Après, ils vont nous parler de droits de l'homme. Non! Est-ce qu'il n'y a pas des gens pour les couvrir ou bien les anéantir? Merci beaucoup.
D'accord, merci à vous. Allô? Allô? Nous allons donc clore les appels de ce matin. Nous revenons en studio. Alors, vous avez un peu suivi. Alors, finalement, on prend un dernier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Komi.
Monsieur Komi, on vous écoute.
D'accord. Ça fait une fierté si nous apprenons que nos sociétés d'État font du CIF et que la société ou bien la population togolaise pouvait en bénéficier. Après l'émission, j'aurais besoin du numéro du confrère pour acheter la presse pour mieux cerner ce qui se passe. J'aimerais aussi demander à savoir s'il y a l'UTB dedans.
S'il y a l'UTB dedans.
Bien sûr.
D'accord. Ça a été dit ? Oui.
Non,
on va vous répondre.
Tu peux me répondre directement.
D'accord. Oui, ça a été dit.
L'UTB est dedans.
Oui. Oui.
À ce jour, nous Togolais, nous cherchons des financements pour pouvoir promouvoir nos activités. Mais quand vous cherchez ces financements dans les autres banques, les taux ne nous arrangent pas. Si nous avons une banque à la Togolaise qui peut valablement nous aider et on n'en trouve pas ces financements à l'UTB, on nous dit que l'UTB fait partie de ces banques-là qui ont de bons chiffres, ça m'étonne. La deuxième chose, par rapport à la SNPT, nous connaissons l'exploitation des phosphates et la zone elle-même, comment elle n'arrive pas à nourrir les natifs du milieu. Comment comprendre ce paradoxe-là que ceux qui doivent profiter de l'utilisation de la chose n'ont même pas l'électricité et que la société fait des rendements? Je suis un peu confus, quoi. S'il peut aussi m'aider à cerner ce qui se passe à ce niveau. Parce que, comment dirais-je, la prospérité des sociétés d'État, les conséquences ou bien les profits doivent permettre à ce que le pays avance. Mais si on a déjà 18 sociétés qu'on a ciblées, que le résultat, on ne le voit pas, je suis un peu confus. Je vais chercher la presse quand même.
D'accord, d'accord. Nous allons prendre... enfin, finalement, c'est le dernier lutteur de ce matin. Nous allons revenir en studio. Alors, Eric Johnson, oui. Il y a eu des questions par rapport aux sociétés d'État.
Oui. Vous savez, lorsqu'on parle de la forme, la bonne forme financière, la bonne santé financière des sociétés d'État, c'est ces sociétés-là prises dans l'ensemble. Vous savez, il y a par exemple la CET, qui est une société qui a de très très graves difficultés. La CET est en difficulté, même au niveau de sa trésorerie. Aujourd'hui, la CET ne dégage pas, en réalité, des bénéfices. La CET engloutit plutôt les efforts de l'État. Parce qu'il faut toujours servir, acheter le courant et le distribuer aux populations, alors que le prix de vente sur le marché ne permet pas de rentabiliser les affaires.
Donc ce n'est pas une question de mauvaise gestion.
Mais aujourd'hui, au niveau de la CET, on ne peut pas parler de mauvaise gestion. Du moment où le prix qu'on achète le kilowattheure auprès de nos fournisseurs et étrangers comme qui sont basés chez nous ne permettent pas de revendre ce courant-là, ce kilowattheure-là, à un prix qui dépasse la possibilité d'être Togolais. Mm. Et donc, l'État continue quand même par subventionner cela à un niveau donné.
D'accord.
Le monsieur a posé la question de savoir si l'UTB fait partie de ces sociétés d'État. Oui, si on avait le temps, j'allais lui citer les 16 sociétés qui ont été évaluées dans ce document-là. Et donc, l'UTB fait partie de ces sociétés d'État.
D'accord, peut-être vous reviendrez pour les citer préparées.
Je voudrais réagir aussi par rapport à ce que Papa Sibiti a dit. Mm. Papa Sibiti a bien raison de dire qu'on ne devrait pas suivre les Blancs en supprimant la peine de mort, hein, les pendaisons et tout ça. Mais je crois que nous devons savoir aussi que les gens profitent de cette sentence-là pour faire tuer des gens. Vous avez vu aux États-Unis, par exemple, il y a de cela 2 mois encore ou 3 mois, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a passé plus de 40 ans en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis.
S'il avait été tué à l'époque,
c'est fini. Mm. Donc, il faut prendre ce qui est bien et laisser le reste pour les Blancs. Mm. La seconde situation, il y a un auditeur qui a parlé et qui voulait plutôt qu'on ait 2 États qui vivent ensemble, c'est-à-dire la Palestine et l'Israël. Mm. Mais je crois que avec l'autorité palestinienne, les deux pays étaient en train d'aller vers une signature de 2 États qui pouvaient vivre ensemble, mais c'est le Hamas qui a refusé que cet accord-là aille de l'avant. Donc c'est le Hamas qui ne veut pas que les 2 États vivent ensemble. C'est juste des trucs que je voulais ajouter.
D'accord. Isidore, alors,
j'ai suivi avec attention minutes, oui. L'intervention des auditeurs. Mm. Et beaucoup se sont indignés de certaines choses que la SNPT ou l'autre là, les sociétés là, on ne voit pas, on ne sent pas cette santé économique rejaillit sur la population. Sans ça, je dis que bon, au-delà du fait de verser des dividendes à l'État, d'autres critères doivent rentrer en considération. Il a tout de suite parlé de la sûreté, mais l'énergie électrique est un produit de souveraineté. C'est un produit de souveraineté, tout comme l'eau. Mais si l'État doit dépenser pour que ce service-là puisse être fourni à la majorité de ses citoyens, mais c'est son boulot. C'est son boulot. Mais pour la société, écoutez, on a suivi tout le développement qu'il y avait eu. Contour global, c'est Contour global qui gurge les recettes de la société. Alors quand on allait installer Contour global, on nous a dit que ce serait avec 3 matières premières. Mais le gaz n'est jamais venu. Pourtant, on a installé des gazoducs. Que dans quelques années d'installation, quand on va tourner, je me souviens encore, c'était hier, Damipi vantait les mérites de Contour global que quand on va passer au gaz, mais le prix va chuter. Mmh. On n'est jamais parvenu au gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il faut se poser des questions. Donc, la santé, moi je souhaiterais que la santé économique de cette société puisse avoir un visage humain qui réagisse sur nous, les populations.
D'accord, merci. Adam Adironou, vous avez suivi un peu les auditeurs.
Oui, tout à fait. Il faut dire que le cerveau de tout ce que nous avons abordé a suscité ces réactions que nous avions. Mmh. Et surtout la question palestine qui...
Justement, on n'a pas eu le temps.
On n'a même pas abordé le sujet.
Ouais, on n'a pas eu le temps. Ouais.
Mais je pense que c'est une question essentielle qui devrait, en tant que soit, nous on passe, mais il y aura quand même des débats autour parce que c'est une question essentielle.
qui devait également interpréter des analyses et voir en réalité, c'est, vous savez, quand on parle de ces deux pays, je pense que c'est une question pratiquement qui touche pratiquement toute l'humanité entière. Et donc, je pense que c'est une question à aborder. Mmh. À l'avenir.
D'accord. Certainement dans nos prochaines éditions. Alors, merci à vous d'être passé dans cette émission. Nous sommes pratiquement vers la fin. Nous allons donner des cartons si vous en avez. Isidore Akolor.
Carton, oui. Le carton, je vais encore réitérer mon carton rouge. Moins de grâce. Aujourd'hui, on a parlé de cette opération et feu tricolore. Yac n'est plus, le général Yac n'est plus là-bas. Mais quand même, réparer les feux tricolores. Réparer les feux tricolores. Mmh. Ça ne doit pas s'arrêter seulement au port de casque.
D'accord.
Donc, carton rouge à nos autorités. Mmh. Est-ce que c'est pas si ça relève des communes ou c'est le Dagle, parce que Dagle, c'est le district de Grand Lomé, autonome de Grand Lomé, bon, qui a des prérogatives sur certaines communes. Mmh. Les feux tricolores ne fonctionnent pas. Réparez-les, c'est source d'incidents.
D'accord. Merci, Eric Johnson.
Oui, moi je vais donner à la Direction nationale des assurances qui s'est finalement réveillée pour apporter quand même des explications ou étayer un peu la lanterne des populations sur les risques et les garanties, les procédures d'indemnisation en matière d'assurance. D'accord. Vous savez que
nous ne sommes pas
dans le secret des dieux, mais c'est difficile pour nous de savoir comment ces assurances-là, ces sociétés d'assurance-là fonctionnent. Mmh. Mais nous avons une Direction nationale de l'assurance qui veut aujourd'hui essayer de briser ce tabou.
D'accord, carton vert.
Oui, mon carton, il est vert. Et moi, je l'adresse à la police nationale dans sa globalité, au regard de l'efficacité qui est exprimée en ce qui concerne le rappel à l'ordre sur la question de casque, et surtout les félicitations également au DG de la police, puisque c'était une réclamation que j'avais émise concernant le fait qu'on puisse temporiser les ardeurs sur les parents en ce qui concerne cette rentrée-là. Et je pense que cela a été fait.
D'être passé dans cette émission, Eric Johnson du journal L'Union, Isidore Akolor du journal L'Actu Express, Adam Adjureno du journal Vision d'Afrique. À la technique, Thomas était Kossi Datevi. Mise en ligne, Jero Akucha. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.
Amen.
Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequin, vous êtes mannequin, ils sont mannequin. Babouka ki ligale ya kalouji na ya koma paplay uta zwa lupemba. Azwa kiboba, bachache, bamiyake, bayama moto, influence a coup d'ailleurs. Mbele na koma na ba platon, bayi furume, moto ba mwela, taba mambila mbila, wakafwa, nandenga kolote. Petit à l'obinanga, na ebi mauvais matin. Na lelie, el doce vito. Mon alandela, na si mama watro. Moi na kout bebi matie. Tarte sur table, ko négocier. Chobize simba monde, vivra vera.
mannequins, elle est mannequin, nous sommes mannequins.
Qui est pas loupa que baby Sakamoto, oh ya ya.